OK, on va continuer notre leçon qu'on avait commencé la semaine dernière. On est dans la deuxième partie de l'introduction à la providence. Donc, la semaine dernière, on avait donné un peu une définition et on avait vu que c'était divisé en trois parties. Que lorsqu'on étudie la providence, la plupart des livres qui parlent du sujet divisent ça en trois parties. Dieu soutient sa création, donc ce qu'on appelle la conservation. Dieu, dans le deuxième point, coopère avec sa création, qu'on appelle la coopération, et le troisième point, que Dieu gouverne sa création, qu'on appelle son gouvernement. On avait regardé différents versets, différentes idées concernant cela. On était rendu à l'idée que Dieu coopère avec sa création dans la création qu'on appelle inanimée. Donc, on avait regardé qu'il donnait la nourriture aux animaux. Cette semaine, on va regarder aussi le fait qu'il dirige les étoiles des cieux. Il dit dans Job 38, par exemple, versets 31 et 32, « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et connais-tu la grande ours avec ses petits? » Bien entendu, les versets signifient que le Seigneur est en train, il dirige absolument le mouvement des planètes et c'est lui qui dirige, il soutient toutes choses. On sait qu'il fait la même chose aussi avec la mer et le soleil. Dans Job 38, versets 8 à 12. Qui est-ce qui a renfermé la mer dans ses bords quand elle fut tirée de la matrice et qu'elle en sortit? Quand je mis la nuée pour sa couverture et l'obscurité pour ses langes, et que j'établis sur elle mon ordonnance, et lui ai mis des barrières et des portes, et tu lui dis, tu viendras jusque-là et tu ne passeras point plus avant, et ici s'arrêtera l'élévation de tes ondes. As-tu, depuis que tu es au monde, commandé au point du jour? Et as-tu montré à l'aube du jour le lieu où elle doit se lever? » Autrement dit, c'est en train de nous dire que c'est lui qui commande au soleil de se lever. Et il est en train de nous dire aussi que la mer, je me souviens d'avoir déjà entendu un reportage là-dessus qui disait que le niveau, l'eau de la mer est plus haut que la terre. Ça ne paraît pas là, comme ça avec nos yeux, là, mais ceux qui ont les instruments pour le vérifier. Alors normalement, l'eau devrait... envahir la terre. C'est pour ça qu'il nous dit ici, « Tu viendras jusque-là et tu ne passeras point plus avant, et ici s'arrêtera l'élévation de tes ondes. » C'est intéressant de noter qu'il y a des phénomènes comme ça qui, physiquement, sont comme incompréhensibles, mais le Seigneur dit que c'est lui qui est au contrôle de ça. Non seulement là-dessus, mais il fait lever le soleil, il fait coucher le soleil, il fait lever les... Et on a vu sur les choses inanimées, mais il a aussi un contrôle, il coopère avec sa création, avec les animaux par exemple. L'Écriture affirme que c'est Dieu qui nourrit les animaux sauvages. Dans le psaume 104, versets 27 à 29, il parle des animaux, il parle des créatures de Dieu. « Elles s'attendent toutes à toi, afin que tu leur donnes la pâture en leur temps. » Quand tu la leur donnes, elles la recueillent. Et quand tu ouvres ta main, elles sont rassasiées de bien. Caches-tu ta face? Elles sont troublées. Retires-tu leur souffle? Elles défaillent et retournent en leur poussière ou leur poudre. Alors, à quelque part, le Seigneur est en train de nous dire que c'est lui qui maintient la vie des animaux. S'il arrêtait de maintenir la vie des animaux, les animaux retourneraient en poussière. Dans Matthieu 6, 26, considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers. Et cependant, votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellents qu'eux? Matthieu 10, verset 29, ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. C'est drôle de penser à ça, tout ce qui vit, le moment de la naissance comme le moment de la mort, le Seigneur est au courant de tout ce qui se passe sur la terre entière. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans quand on pense à ça. Il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que le Seigneur l'ait permis. Donc, il contrôle aussi les choses inanimées, les animaux, et il contrôle ce que les Écritures appellent des événements qui sont dus au hasard ou à la chance. Nous, on dit c'est un hasard ou c'est une chance, mais les Écritures, bien entendu, du point de vue humain, un tirage au sort, ou ben non, tirer l'équivalent moderne de tirer à pile ou face ou lancer des dés. Nous, on dit que c'est le phénomène du hasard qui... Mais le Seigneur dit, par exemple, dans Proverbe 16, verset 33, on jette le sort au giron, mais tout ce qui doit arriver est de par l'Éternel. Autrement dit, même les choses qui, à notre perception, est du hasard, le Seigneur contrôle ces événements-là. Donc, il contrôle les événements qu'on appelle dus au hasard ou à la chance, entre guillemets. Il dirige aussi les affaires des nations. L'Écriture nous parle de la direction providentielle de Dieu dans les affaires humaines. Par exemple, dans Job 12, verset 23, il dit: Il multiplie les nations et les fait périr, il répand çà et là les nations, et puis il les ramène. Donc, quelque part dans l'histoire, la naissance des nations, la mort d'une nation, leur territoire est établi par le Seigneur lui-même, comme ça dit. Il répand çà et là les nations et il les ramène. Autrement dit, il joue avec les. C'est le Seigneur qui décide. Psaume 22, verset 28. Car le règne appartient à l'Éternel et il domine sur les nations. Bien sûr, quand on est un croyant, qu'on lit les Écritures, on est au courant de cela. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils pensent que c'est les nations qui dirigent tout Oui, ils dirigent, mais Dieu permet certaines choses et Dieu contrôle les événements qui se passent dans les nations. C'est très important de le réaliser. Ça nous enlève beaucoup de peur. Parce que si on sait que ce sera dirigé uniquement par les hommes, quelque part, il pourrait arriver des choses très, très graves. Acte 17, verset 26. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leurs habitations. Il parle du genre humain, puis il dit que c'est lui qui établit les frontières entre les nations. Alors, on sait que quand on étudie l'histoire, certaines nations ont déjà eu beaucoup de territoires, puis à un moment donné, avec le temps, prenons l'Égypte, par exemple. L'Égypte a déjà été très puissante à l'époque, et maintenant, à cette heure, l'Égypte est un petit pays de rien du tout. Alors, ce n'est pas des hasards, c'est Dieu qui contrôle ces choses-là. Dans Daniel 4, par exemple, verset 31-32, la parole était encore de la bouche du roi quand une voix vint des cieux disant: Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume te va être ôté, et on va te chasser d'entre les hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. On te paîtra d'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le souverain domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voyez-vous, il était rendu qu'il avait l'impression que c'est lui qui menait, le roi Nebuchadnezzar. Là, le Seigneur, il dit, pendant 7 ans, tu vas aller manger de l'herbe d'un champ comme un bœuf. Et il dit, au bout de 7 ans, quand tu vas reconnaître que c'est moi qui mène, je te redonnerai ton royaume. À quelque part, ça a dû être un petit peu humiliant pour M. Nebuchadnezzar. Et le Seigneur nous dit aussi qu'il contrôle tous les aspects de notre vie. Par exemple, est-ce que Dieu sait la journée même que chacun d'entre nous va mourir, le nombre de jours qui nous a été alloués? Personne de nous le sait, mais lui, il le sait. Ça dit dans le psaume 139, verset 16, Tes yeux m'ont vu quand j'étais comme un peloton, et toutes ces choses s'écrivaient dans ton livre au jour qu'elles se formaient, même lorsqu'il n'y en avait encore aucune. Autrement dit, c'est le Seigneur qui détermine le nombre de tes jours. Il sait quelle date tu es venu au monde, puis il sait quelle date tu vas mourir, puis il sait dans quelles circonstances exactement. Il n'y a rien qui fait partie de ta vie que le Seigneur ne connaît pas. Galates 1, verset 15. Mais quand ça a été le bon plaisir de Dieu, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Ici, c'est, dans le contexte, c'est Paul. Paul est en train de dire que Dieu avait déjà choisi, il était dans le ventre de sa mère, puis déjà Dieu avait dit que c'était une personne qui deviendrait importante dans son royaume et qui deviendrait un outil dans sa main pour annoncer le salut aux nations. À quelque part, c'est là qu'on voit c'est qui mène. Jérémie, verset 1 et chapitre 1, verset 5. « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Oui, Jérémie, il est encore dans le ventre de sa mère, puis le Seigneur, il dit, « Toi, là, tu vas devenir un grand prophète pour moi. » Quelque part, il y a quelque chose d'extraordinaire de voir. On voit comme qui prend les décisions. Alors, les décisions aussi que nous prenons chaque jour, souvent, sont dirigées par le Seigneur. Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. » Quelque part, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. Il est en train de nous dire que, dans le fond, nous, on pense qu'on mène nos vies, mais il dit qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Proverbes, chapitre 20, verset 24. « Les pas de l'homme sont de par l'Éternel. Comment donc l'homme entendra-t-il sa voix? » Proverbes 16, verset 9. « Le cœur de l'homme délibère de sa voix, mais l'Éternel conduit ses pas. » Délibère, autrement dit, on est en train de, on pense, qu'est-ce qu'on va faire, si ça, mais ça dit, mais l'Éternel conduit nos pas. C'est lui qui conduit nos pas. Nos réussites et nos échecs viennent aussi de Dieu. Psaume 75, versets 6 et 7. Car l'élévation ne vient point d'Orient, ni d'Occident, ni du désert, car c'est Dieu qui gouverne. Il abaisse l'un et élève l'autre. Moi, je l'ai vu souvent dans ma vie, des personnes qui avaient des rôles sociaux très importants, très élevés, et que je les ai vus tomber là, du jour au lendemain, se ramasser quasiment, pas quasiment, se ramasser sur le bien-être social. Des personnes qui, dans une ville, étaient considérées comme des personnages, mais que le Seigneur a fait en sorte qu'ils ont plongé. Et ça, on voit ça souvent. Le Seigneur prend des personnes, il peut prendre une personne. On prend David. Il a pris David, il l'a fait le roi d'Israël. Mais il peut faire le contraire aussi. Il peut prendre un roi puis l'emmener à manger de l'herbe dans le champ. Alors, quelque part, c'est bien de réaliser toutes ces affaires-là. Luc 1, verset 52-53, « Il a renversé de dessus leur trône les puissants, et il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches vides. » Les enfants, quand on a des enfants, la parole nous dit que c'est un don de Dieu. Dans Psaume 127, verset 3, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Alors, quand le Seigneur permet qu'on ait des enfants, il faut se souvenir que c'est un don qu'il nous a fait. Nos aptitudes aussi viennent du Seigneur. Alors, pourquoi certaines personnes sont super habiles avec leurs mains, d'autres ne le sont pas du tout? Pourquoi certaines personnes sont très habiles à écrire des livres alors que l'autre ne sont pas capables du tout? C'est des aptitudes. Des fois, on n'a pas à se vanter de ce qu'on est, parce que c'est le Seigneur qui a permis, qui nous a donné soit un talent, soit l'autre. On n'a pas à critiquer ou à envier qui que ce soit. On est tel que l'on est parce que le Seigneur, c'est ça qui a décidé qu'on serait. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. « Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu? » Dieu aussi influence les dirigeants dans leurs décisions. Proverbe 21, verset 1. « Ce sont des cours d'eau dans la main de l'Éternel que le cœur du roi. Il l'incline à tout ce qui lui plaît. » Autrement dit, le Seigneur peut changer le cœur d'une personne et l'incliner à ce qu'il veut. Dieu influence aussi maintenant tous les habitants de la terre. Dans le psaume 33, versets 13 à 15, « L'Éternel regarde des cieux, il voit tous les enfants des hommes, il prend garde du lieu de sa résidence à tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme également leur cœur. » et qui prend garde à toutes leurs actions. Le Seigneur, il regarde les actions de tous les hommes en tout temps et les voit à la perfection. Dieu dirige aussi les désirs et les inclinations des croyants. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir et l'exécution selon son bon plaisir. Tu sais, le vouloir et le faire. Autrement dit, quand on demande quelque chose à Dieu, c'est lui qui nous rend capable de le vouloir et de le faire, à quelque part. Alors, c'est très important de le réaliser parce qu'à quelque part, on peut prier en ce sens-là, en sachant que c'est lui qui donne la capacité de faire les choses. Troisième point qu'on voulait regarder, c'est Dieu gouverne sa création, donc son gouvernement. Dieu poursuit un dessein, une raison, autrement dit, dans tout ce qu'il fait dans le monde, et il gouverne ou dirige providentiellement toutes choses afin qu'elles accomplissent ses buts. Il n'y a rien qui n'arrive sans que l'Éternel n'ait pas un but en arrière de tout cela. Même les choses qui nous paraissent dures. On parlait tantôt des choses qu'on entend à la télévision, des scandales sexuels, du péché qui pullule un peu partout. Mais Dieu se sert de ces choses-là. Dans le psaume 103, verset 19, ça dit « L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne a domination sur tout ». Romains 8, 28 et 29, « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voyez-vous, ça nous dit la raison pour laquelle le Seigneur permet des choses dans nos vies. Ça nous dit à être conforme à l'image de son Fils. Tout ce qui nous arrive, qui nous fait souffrir parfois, des fois qui nous réjouit, le Seigneur se sert de chacun des événements. Chacun, il n'y a pas un petit événement, même petit, qui arrive dans nos vies de tous les jours, qui n'a pas un but, qui n'a pas été donné par le Seigneur. Donc, le gouvernement de Dieu comme roi de l'univers, acte 17, versets 24 et 25, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » C'est lui qui donne toute chose. Il n'y a pas besoin de rien, c'est lui qui donne. Acte 2, verset 22-23. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Autrement dit, le moyen que les hommes utiliseraient pour faire périr Jésus, ça avait déjà été déterminé par Dieu lui-même quels moyens les hommes utiliseraient. Sans que ce soit lui qui soit responsable de la chose, la responsabilité des hommes reste entière. Mais il savait quand même, parce que ça dit, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Acte 4, 28. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, ça avait été la décision que la chose arriverait comme est arrivée. Si on lit les évangiles, surtout la passion de Christ, qu'on appelle toutes les choses qui se sont déroulées durant la semaine, le jugement, la crucifixion, le fouet, la couronne d'épines, toutes ces choses-là avaient déjà été déterminées par Dieu. Apocalypse 19, versets 6 et 16. « J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée et comme le bruit de grandes eaux et comme l'éclat de grand tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a pris possession de son royaume. Et dans le verset 16, ça dit, « Et sur son vêtement et sur sa cuisse, c'était écrit ces mots, « Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Donc, le gouvernement de Dieu est universel. Autrement dit, il n'y a rien dans tout l'univers créé, que ce soit les planètes, que ce soit les hommes, les gouvernements. Il n'y a rien qui n'est pas sous son parfait contrôle. Psaume 22, versets 28 et 29, « Car le règne appartient à l'Éternel et il domine sur les nations. Tous les gens de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Tous ceux qui descendent en la poudre ou en la poussière s'inclineront, même celui qui ne peut garantir sa vie. » On va aller Matthieu 10, versets 29 à 31. « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, et cependant, aucun d'eux ne tombe point en terre sans la volonté de votre Père. Et les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. » Hein, pour dire, il n'y a pas un d'entre nous, t'es à peu près certain qu'il n'y a pas aucun homme qui sait combien il y a de cheveux sur la tête. Moi, dans mon cas, ce ne sera pas long à compter. Mais dans certains autres cas, ça serait très long à compter. Puis il dit qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans que lui, il soit non seulement au courant, mais il dit, aucun d'eux ne tombe point en terre sans la volonté de votre Père. À quelque part, ça donne-tu une idée jusqu'à quel point Dieu contrôle toutes choses? Donc, la providence ordinaire aussi versus la providence extraordinaire. La providence extraordinaire, ça serait comme les miracles. La providence ordinaire, c'est ce qui se produit dans tous les jours. Quand Dieu fait quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on est habitué de voir, comme quand Jésus est venu arrêter une tempête ou guérir un aveugle ou des affaires de même. Ça, c'est de la providence extraordinaire. Mais ordinaire, c'est ce qui se passe à tous les jours, dans la vie de tous les hommes, sans exception. Alors, dans sa providence, Dieu se sert habituellement de moyens. Cependant, il est libre d'agir, s'il lui plaît, sans moyens, ou en plus d'eux, ou à l'encontre d'eux. Par exemple, disons qu'il y a une guerre, Dieu permet que le soleil arrête pendant 24 heures. Là, c'est sa propre création. Donc, il est capable d'arrêter le soleil de permettre qu'il y ait de la lumière pendant une journée au complet plutôt que 12-12. Alors, il le fait parfois avec des moyens. Par exemple, dans Actes 27, versets 31 et versets 43 et 44, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ceux-ci ne demeurent dans le navire, vous ne pouvez point vous sauver. » Mais le centenier, voulant sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce conseil et il commanda que ceux qui pourraient nager se jetassent dehors les premiers et se sauvassent à terre. Et le reste, les uns sur des planches et les autres sur quelques pièces de navire, et il arriva que tous se sauvèrent à terre. Autrement dit, Dieu avait dit que tous les gens qui étaient sur le bateau ne mourraient pas. Et il fallait qu'ils restent sur le bateau. Sinon, à quelque part, alors la décision divine avait été prise, donc c'est avec un moyen. Le moyen d'être sauvé alors de cet événement-là, c'est de rester sur le bateau. On sait qu'il avait essayé, hein, il avait pris des barques, il avait trop peur, il voulait se sauver. Et Paul les avertit, si vous ne demeurez pas sur le bateau, vous allez périr. Et des fois, le Seigneur utilise aussi, il fait des choses sans les moyens. Dans Osée, chapitre 1, verset 7, « Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda, et je les délivrerai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les délivrerai point par l'arc, ni par l'épée, ni par des combats, ni par des chevaux, ni par des gens de cheval. » Autrement dit, l'Éternel est capable de permettre que des choses arrivent sans qu'il y ait nécessairement des militaires d'impliquer. Il est capable de faire des choses sans moyens. Et il est capable de faire des choses aussi en plus des moyens. Romains chapitre 4, versets 19 à 21. Recherchons donc les choses qui vont à la paix et qui sont d'une édification mutuelle. Ne ruine point l'œuvre de Dieu par ta viande. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais celui-là fait mal qui mange en donnant du scandale. Il est bon de ne point manger de viande, de ne point boire de vin et de ne faire aucune chose qui puisse faire broncher ton frère ou dont il soit scandalisé et dont il soit blessé. Autrement dit, quand il y a quelque chose à nos frères qu'on sait que ça l'offense, disons que je sais qu'il y a des chrétiens, par exemple, qui ne prennent pas aucune boisson. Puis pour eux, c'est très important. Alors, si tu l'invites chez vous, tu ne serviras pas du vin. Parce que la Bible nous demande de respecter notre frère. Alors, à quelque part, il faut s'habituer à respecter les autres. C'est parce que c'est le Seigneur qui nous la demande. Et il le fait aussi à l'encontre des moyens. Daniel 3, verset 27. « Puis les satrapes, les lieutenants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent pour contempler ces personnages-là. Et le feu n'avait eu aucune puissance sur leur corps, et un cheveu de leur tête n'était point grillé, et leurs caleçons n'étaient en rien changés, et l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. » Normalement, si vous mettez quelqu'un dans le feu, avec des vêtements, il brûle. Quand on dit qu'il est capable de faire des choses à l'encontre des moyens, même si les gens étaient dans le feu, et que normalement, il aurait dû être brûlé, eux, les trois qui avaient été mis dans la fournaise ardente, et le roi avait fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude, que ça dit, ils ont sorti de là, puis il n'y avait rien du tout. Donc, à l'encontre des moyens. Le moyen, le feu, normalement, ça brûle, et là, le Seigneur fait en sorte que capable de sauver les siens, même en dépit du feu. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire avec cela? Pour bien comprendre et accepter que Dieu est au contrôle absolu de toutes choses, nous devrions éviter 3 choses. La première, l'anxiété misérable et la plainte continuelle devant nos circonstances. On chiole-tu dans la vie? Ou si on ne chiole pas? On chiole tout le temps et presque sans arrêt. Pourtant, si quelqu'un comprendrait très bien la doctrine de la Providence et l'appliquerait dans sa vie, il ne chiolerait jamais. Parce que se plaindre, c'est en train de dire, c'est comme si tu disais à Dieu, ce que tu m'envoies dans ma vie, je ne sais pas si j'ai besoin, moi. C'est comme si tu te penses plus fin que lui pour déterminer qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Alors, se plaindre, c'est un péché. Et on le fait tous les jours, malheureusement. On est tous faibles à cet égard-là. Mais il faut apprendre qu'il faut arrêter d'être anxieux et il faut arrêter de se plaindre continuellement de nos circonstances parce que c'est Dieu qui nous les envoie et c'est Dieu qui les contrôle. Pour des raisons précises, on l'a dit tout à l'heure, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Le deuxième, c'est de ne pas être pris d'un fatalisme paralysant. Un fatalisme, autrement dit, tu penses que tout Dieu a tout déterminé d'avance puis tu n'as rien à faire, ça va arriver pareil. On a notre liberté malgré, alors c'est une erreur que d'avoir un fatalisme paralysant. Et troisième chose qu'on se doit de faire attention, c'est une dangereuse présomption. À cause qu'on est des enfants de Dieu, on peut faire n'importe quoi de dangereux, puis Dieu va nous protéger. Dieu n'est pas obligé à nous. Il nous fait beaucoup de choses par grâce, mais il n'est pas obligé à nous. Alors il ne faut jamais qu'on pense voir des résultats sans l'emploi des moyens, particulièrement les moyens de grâce. Par exemple, quand on est un enfant de Dieu et qu'on veut grandir dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans toutes les choses que le Seigneur nous commande, il nous dit que ça va arriver par l'utilisation des moyens de grâce qu'il nous donne. Si on ne les utilise pas, on n'aura pas le résultat. Alors les moyens de grâce, il nous les donne, mais il faut les utiliser. Alors, ne nous attendons jamais à ce que Dieu sauve nos bien-aimés, à moins de prier fervemment pour eux. Et ceci, sans relâche. Nous savons cependant qu'il peut le faire. Ne croyez jamais que vous serez en sécurité sans prendre des précautions, par exemple. Le moyen de faire du profit est de travailler. Le chemin pour le ciel doit se faire en marchant dans la sainteté et dans la voie étroite. Beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à considérer en méditant sur la doctrine de la providence de Dieu. Alors, béni soit le Seigneur qui préserve, qui coopère et qui gouverne parfaitement et absolument toute sa création. Gloire à notre grand Dieu. Amen.